On n'a même pas d'idée, on ne sait pas ce qu'on va faire ce week-end.
C'est pas grave, on écoutera la JT du local. Ils ont toujours de bonnes idées.
Certains ont les oreilles qui sifflent, et bien moi, ça bourdonne dans mes oreilles aujourd'hui. La sensation que des trains passent, d'être encore ici sur le quai, de le regarder s'éloigner et de rester là, immobile à penser qu'il fallait pourtant monter dedans. Saisir ce train, saisir la chance tant qu'elle est encore là. Le train dont je vous parle aujourd'hui, ce sont en fait les alertes que l'on entend depuis des années concernant la diminution de la population des abeilles. Ces créatures fascinantes, si petites mais d'une importance colossale, j'avais envie qu'on en parle. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Michel Bélanger, coprésident de l'association Abeilles Mayennaises, qui est avec moi aujourd'hui pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Michel.
Bonjour Margot.
Merci de m'accompagner tout au long de cette émission pour le grand entretien du vendredi dans l'agité du local. Bienvenue à vous, amis auditeurs, pour cette dernière émission de la semaine. Et pour ce vendredi, comme à notre habitude, on retrouvera évidemment l'agenda culturel en fin d'émission. Que se passe-t-il dans nos salles? Quels événements sont à ne pas manquer? Nous ferons le tour de la programmation à venir à 12h40. Mais avant cela, je vous propose de regarder rapidement les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut-Anjou. Château Contier dans un clip musical, Claudio Capeo a sorti son dernier clip Les Petites Gens dans lequel figurent des images de sa venue sur la scène du VNB Fest. Tom Caillot, responsable de la communication du festival, raconte qu'un très bon contact avait été remarqué entre un bénévole et l'artiste et que ce choix de valoriser le festival et le territoire pourrait venir de là, en plus de l'émotion particulière ressentie lors du concert. Le seul cabinet dentaire de Quelaine a été contraint de fermer par manque d'hygiène suite à une inspection de l'ARS en avril 2023. Plusieurs manquements sur les règles d'hygiène et de stérilisation des instruments ont été relevés. Une lettre a été envoyée par l'ARS à tous les patients pour des tests de dépistage proposés à tous. Et enfin, une voie douce en construction à Château-Gontier entre le parc de Loisillières et la route de Cran. Les travaux ont débuté fin 2023. La mairie annonce que le chantier sera livré pour les beaux jours. Il sera désormais possible de circuler en toute sécurité, en vélo, en skate ou en trottinette. Je vous le disais tout à l'heure, Michel Bélanger est avec nous aujourd'hui. Michel, vous êtes le coprésident de l'association Abeilles Mayennaises. L'association a été créée en 2008 et elle s'est fixée pour but la sauvegarde de l'abeille et de son environnement. Alors pour cela, votre association propose notamment des activités pédagogiques permettant de mieux comprendre l'abeille, son mode de fonctionnement et le rôle indispensable des insectes pollinisateurs.
Bonjour. Oui, effectivement, on a deux orientations principales. Première orientation pour faire découvrir l'apiculture familiale et de loisirs, c'est-à-dire, pour faire simple, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des amateurs. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent avoir une ou plusieurs ruches dans le fond de leur jardin ou dans leur champ, donc on va les accompagner en leur donnant justement la formation de base et ensuite les accompagner tout au long de leur parcours d'apiculteur pour leur apporter un certain nombre de formation de perfectionnement, mais en même temps aussi parce que, évidemment, depuis je ne parle même plus de changement climatique, mais de dérèglement climatique, le métier de l'apiculture a beaucoup changé. Donc, ça demande aussi pour nous de se remettre en cause en permanence pour adapter nos techniques par rapport à l'environnement. Et ensuite, la deuxième autre activité, c'est justement, on fait partie de la sensibilisation à l'importance de sauvegarder les abeilles et les insectes pollinisateurs. Et pour ce faire, on a installé au Rucher du Potier un circuit pédagogique pour faire découvrir, notamment aux écoles, l'abeille dans son environnement, donc comment elle fonctionne, mais aussi comment elle fonctionne dans son environnement et quelles sont les conditions d'un environnement favorable.
Donc voilà, vous êtes là aussi pour sensibiliser, comme vous le dites. On rappellera quand est-ce que commence un peu ce circuit, ces différents temps en fin d'interview. J'avais envie de commencer avec vous par ce chiffre. En Europe, environ 40% des colonies d'abeilles ont été décimées en moins de 10 ans. Les pays d'Europe occidentale, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie, sont particulièrement touchés. Est-ce qu'il y a des chiffres concernant notre territoire sur la quantité d'abeilles encore présentes peut-être ?
Alors, depuis quelques années, régulièrement, on est sur des taux de mortalité de 30% à la sortie d'hivernage. Donc, je pourrais rentrer un petit peu. Mais en fait, nous, on calcule justement parce que l'abeille, à la différence des autres insectes pollinisateurs, va hiverner et non pas hiberner. Ça veut dire que pendant l'hiver, la colonie continue à exister et justement consomme les réserves de miel qu'elle a fait pendant l'année apicole. Et ensuite, ben, nous, on fait le constat à la sortie de l'hiver, parce que l'hiver, c'est quand même toujours un moment de grande fragilité pour elle. Et on calcule toujours à la sortie de l'hiver le nombre de ruches, enfin de colonies, pardon, qu'on va avoir et pour préparer sa saison apicole. Et donc, on est sur 30 à 40% de mortalité, ce qui est important, parce qu'il y avait 30-40 ans qu'on faisait l'apiculture du papy. On disait il suffisait d'avoir ces ruches dans le fond du jardin, on y allait deux fois pour faire la récolte de printemps et d'été, et on ne s'en occupait plus. Et depuis un certain nombre d'années, maintenant, bah, effectivement, ça nécessite beaucoup de remise en cause, comme je disais, par rapport à la formation. Donc 30 à 40%, c'est effectivement un chiffre qu'on peut avoir également en France. Maintenant, à nous de aussi, par rapport à nos pratiques apicoles, d'essayer de faire des bonnes pratiques pour le bien-être de l'abeille, pour essayer de réduire ce taux de mortalité.
Et alors, quand on parle des abeilles, il existe en fait un très grand nombre d'espèces différentes dans le monde. Ce qui est très important à souligner, c'est que 35% de nos ressources alimentaires dépendent des abeilles.
Oui, alors globalement, il y a dans le monde plus de 2000 espèces d'abeilles, sur lesquelles s'ajoutent toutes les autres insectes pollinisateurs. Donc sur 2000, en France, on a 800 espèces d'abeilles. Donc ce sont dans la famille abeille, Apis. Hein. Et dans cette famille abeille, il n'y en a qu'une seule qui produit du miel, Apis mellifera. C'est pour ça qu'on s'est intéressé énormément à elle et qu'on l'a fait vivre dans une boîte, dans une ruche. D'où l'idée qu'on a domestiqué l'abeille mellifère. Par contre, l'ensemble des autres espèces d'abeilles, elles aussi contribuent justement à la pollinisation. Il faut savoir que globalement, la pollinisation, c'est 80% de nos ressources alimentaires. C'est-à-dire que sans pollinisation, on se prive de 80% de nos réserves alimentaires. Et donc, par contre, ce qu'il faut revenir à vous pour répondre précisément à votre question, c'est que l'abeille mellifère, celle qui nous intéresse, donc celle qui produit du miel, c'est la seule espèce qui produit du miel, elle n'est pas en mesure de polliniser l'ensemble des autres insectes, l'ensemble des autres fleurs. Et notamment, parmi un des gros alliés dans les insectes pollinisateurs, c'est le bourdon. Le gros bourdon qu'on connaît tous, là, le bourdon champêtre ou le bourdon des murailles, lui, par contre, en ce moment, il est en grande fragilité. Et c'est vraiment un allié de la pollinisation parce que lui va polliniser des fleurs que l'abeille ne peut pas polliniser. Et si on se prive d'insectes comme le bourdon, on va avoir des difficultés. Une précision, nous, en tant qu'apiculteurs, avec une bonne technique, on sait comment reproduire l'abeille mellifère, donc on sait comment créer des essaims. Par contre, pour les autres abeilles sauvages, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment reproduire le bourdon et les autres espèces d'abeilles. Et c'est ça le gros danger qu'il y a actuellement.
Et les abeilles sauvages restent importantes puisqu'elles se complètent avec nos abeilles domestiques au niveau de la pollinisation, justement.
Oui, c'est bien un ensemble. C'est comme, vous savez, quand on dit qu'il y a la chaîne de la biodiversité, on est bien dans cette chaîne de biodiversité où chacun a un rôle. Tout l'ensemble des insectes pollinisateurs, il y a les papillons, entre autres, par exemple, qui eux sont aussi menacés. Il y a d'autres espèces d'insectes notamment, par exemple, comme la coccinelle, etc., qui sont moins pollinisateurs peut-être que d'autres insectes, mais chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Il y a des espèces d'abeilles sauvages qui ne vont polliniser qu'une type de fleurs. Et ces types de fleurs, ben, elles ont son importance. Hein. Comme par exemple, aussi bien l'écureuil que les hérissons. Quand on dit l'hérisson, à quoi il sert ? Si, il a son importance dans la chaîne. Et on voit bien, notamment, c'est lui qui intervient pour, notamment, contrôler, par exemple, les limaces. Et plutôt que de mettre un certain nombre de produits qui va faire crever les hérissons et les limaces, essayons d'avoir comme allié l'ensemble de cette chaîne de biodiversité.
Et donc, justement, vous le dites, faire attention à cette chaîne de biodiversité. J'aimerais bien maintenant qu'on s'intéresse aux causes du déclin des abeilles. Quelles sont pour vous les principales causes pour qu'on cerne bien ces enjeux-là ?
Alors, c'est arrivé, l'apiculteur de papy, il n'y avait pas de problème. Là, la première alerte a été avec un produit phytosanitaire, le gaucho. Et le gaucho, ça a détruit à l'époque 30 à 40%. Donc le gaucho a été interdit, mais le génie humain et commercial a fait qu'on a produit d'autres insecticides, dont les fameux néonicotinoïdes. J'arrive toujours du mal un petit peu à le dire. Mais il y a plein d'autres produits d'insecticides pour l'agrochimie, parce qu'on est en fait dans un type d'agriculture intensive qui fait qu'on est sur des productions monoculturales avec le maïs, le blé et le colza, pour faire simple. Hein. Et du coup, pour avoir ces produits, de cette production intensive, bien on met un certain nombre de produits qui sont des désherbants ou des insecticides qui fait détruire un certain nombre d'insectes.
Et à savoir également que cette question de la monoculture empêche finalement aux abeilles aussi de retrouver les ressources en plus des pesticides qui peuvent être ajoutés dans ces monocultures, c'est que finalement les abeilles ne trouvent pas forcément toutes les ressources dont elles ont besoin en ayant ce mode d'agriculture là.
Oui, parce qu'effectivement, si vous voulez, l'ensemble des plantes mellifères, c'est un ensemble de compléments. D'ailleurs, regardez, on va faire du miel de colza, on va faire du miel d'acacia, etc. Donc chaque fleur a aussi également son importance, et le fait que, si vous voulez, je parle toujours du bol alimentaire, moi, pour les insectes pollinisateurs. Ce bol alimentaire, il n'est pas extensible. Et du coup, comment on va le réduire? Eh bien, en fait, c'est là qu'il va y avoir des compétitions aussi entre des pollinisateurs pour avoir accès à la ressource. D'où l'importance de maintenir une diversité de ressources mellifères. Sinon, évidemment, ça va nous poser des difficultés. Donc, vous me disiez quels étaient les différents facteurs de disparition des abeilles. Tu mets toujours des abeilles et des insectes pollinisateurs.
Bien sûr.
Il y a à la fois, donc, dans un premier temps, il y a eu tout ce qui touche les produits chimiques. Hein. Deuxième chose aussi qu'il y a eu, notamment spécifique pour l'abeille mellifère, un petit parasite qui s'appelle le varroa. Hein. C'est un parasite, pour faire simple, c'est le pouls de l'abeille. Hein. Et donc, il se fixe sur l'abeille. Mais dès le début, dès que la reine abeille va pondre, la reine varroa va également pondre dans l'alvéole. Et donc, l'abeille domestique va se développer avec déjà attaché sur son dos ce petit acarien. Et ce petit acarien, il a un développement exponentiel au même titre que l'abeille. Et lorsqu'au printemps, on a une cinquantaine de varroa dans sa ruche, on est sûr qu'arrivé à l'été, on risque d'avoir beaucoup plus de varroa que d'abeilles. Donc ça va affaiblir l'abeille parce que ça suce son sang et ça la porte d'entrée à toutes les maladies. Ensuite, troisième chose, ça a été le fameux frelon, qui lui aussi va affaiblir énormément l'abeille. Mais il faut savoir aussi que le frelon, il s'attaque aux abeilles mellifères, notamment l'été, parce qu'il va, plutôt que d'aller chercher à manger ailleurs, il sait qu'il y a un garde-manger dans la ruche, donc il va s'attaquer donc aux abeilles mellifères. Mais il faut savoir qu'il consomme à peu près 30 à 40% d'abeilles, mais le reste de son repas, de son menu, c'est les autres insectes pollinisateurs aussi. D'accord. Et puis ensuite, l'autre grosse difficulté pour l'ensemble des insectes, hein, c'est la dispersion de leur habitat naturel. Dans le temps, il y avait les haies, il y avait plein de cours d'eau, etc. Il y avait plein d'autres choses comme habitat naturel. Et actuellement, du fait de la monoculture, on est en train d'abattre même les haies en bordure des routes qui ne vont rien. Et donc, toute cette dispersion d'habitat fait que, effectivement, nos insectes ont de plus en plus de mal à se reproduire, à s'abriter avec la période du froid, par exemple. Actuellement, comme il n'y a plus de haies, où est-ce qu'ils vont?
Il y a également le réchauffement climatique qui est en cause dans cette perturbation, en fin de compte, de l'environnement des abeilles et de leur rythme de vie.
Oui, évidemment, pour nous, c'est une grosse interrogation, parce que le changement, voire le dérèglement climatique, fait qu'on a des alternances de météo qui sont très variables, avec du temps très sec ou du temps très pluvieux ou du temps très venteux. Et donc, on s'aperçoit, si vous voulez, le châtaignier qui arrive en principe en fleurs autour de début juin. Eh bien, une année sur deux, on est privé de production de châtaignier parce que soit il y a trop de vent, donc la pollen, soit il pleut beaucoup pendant 3-4 jours, donc ça rince la fleur, et ensuite il y a pendant 8 jours un soleil très dur qui va là par contre assécher la pollinisation, donc du coup à la sortie on n'a pratiquement pas de châtaignier. C'est valable par exemple pour l'acacia qui est un bon miel belle, bonne qualité. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir de l'acacia parce qu'il y a eu des gelées tardives. Et du coup, ben, l'acacia, lorsqu'il est en fleur début mai, il va geler. Même chose pour le tilleul.
Je vous propose, Michel, de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer donc cette émission sur la thématique des abeilles.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace. Mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis.
Retour dans l'agité du local, on est aujourd'hui en compagnie de Michel Bélanger, coprésident de l'association Abeilles Mayennaises. Et donc aujourd'hui, ensemble, on est en train de parler de cette question des abeilles, de son déclin. Et on reviendra tout à l'heure, dans quelques instants, sur cette association et sur ce qu'elle met en place et propose sur notre territoire. Michel, tout à l'heure, on a abordé justement les causes du déclin des abeilles. Et j'aimerais bien revenir avec vous un instant sur... quelles sont les ressources que nous on a peut-être en tant que simples citoyens, mais également les collectivités. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour essayer de préserver ces abeilles, préserver leur environnement?
Alors, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire c'est revenir aux choses naturelles. Entre autres, je vous parlais tout de suite de bol alimentaire. Donc effectivement, c'est s'interroger, savoir comment on peut augmenter ce bol alimentaire pour que chacun puisse se retrouver de la ressource. Ça veut dire notamment tout ce qui touche la partie urbain ou post-urbain, c'est d'essayer au niveau des haies paysagères qu'on peut avoir, plutôt que de mettre du thuya ou bien du laurier palme, de mettre des espèces mellifères. Plutôt que d'avoir des grandes pelouses qu'on va tondre tous les 8 jours, d'essayer de justement faire en sorte que l'herbe pousse, et surtout, c'est tout simple, c'est de semer plein de graines de plantes mellifères, des coquelicots, du bleuet, il y en a plein. Et donc du coup, là, on va augmenter ces espèces mellifères, et les collectivités, justement, enfin je pense aux efforts que fait la ville de Laval, Laval Aglo, mais aussi Mayenne, Château-Gontier, et plein de collectivités, c'est justement d'essayer de planter, déjà de s'engager à replanter beaucoup d'arbres qu'on a abattus plutôt que d'arraser les haies, et ensuite c'est de privilégier des espèces mellifères, donc déjà d'augmenter la ressource. Ensuite, c'est d'essayer justement toutes les causes de ces disparitions des abeilles et des insectes pollinisateurs, notamment le frelon. Donc là, on s'engage dans un combat difficile parce que le frelon asiatique, c'est vraiment un fléau, et ce fléau là, on apprend à le combattre. On a essayé cette année de faire une campagne de piégeage du frelon asiatique au printemps, parce que au printemps, justement, on sait que les femelles qui ont hiberné vont ressortir, et le but, c'est de piéger ces femelles au début avant qu'elles ne fassent des nids. Donc on a essayé de mettre quelque chose qui n'a pas donné entière satisfaction, mais voilà, on expérimente là aussi, donc c'est de pouvoir ça. Et puis autre chose, nous aussi en tant qu'apiculteurs, c'est d'essayer de tester des pratiques alternatives, parce que actuellement, pour combattre entre autres le varroa, la seule alternative en ce moment qu'on a, c'est de mettre des produits chimiques. Et ces produits chimiques, depuis un certain nombre d'années qu'on les utilise, leur effet, là aussi, c'est un peu comme les antibiotiques, leur effet est en train de s'amenuiser. Donc, c'est d'essayer de tester d'autres pratiques alternatives pour revenir à des pratiques naturelles. Donc là aussi, il faut y aller. Voilà, en essayant d'expérimenter. Actuellement, justement, on a installé un rucher au refuge de l'Arche dans un environnement qui se veut justement de préservation de la faune sauvage. Et on va essayer d'expérimenter cette pratique-là pour savoir comment on peut utiliser. Et si on a de la réussite, d'essayer de le généraliser à d'autres ruchers. Donc, moi, j'évite toujours de dire qu'on a les solutions miracles. En fait, la seule solution miracle, c'est de revenir aux ressources, à la source, au naturel. Comment on peut faire naturellement ? Comment on faisait qu'il y a 30-40 ans, on n'avait pas ce problème-là ? Donc, c'est d'essayer de recopier la nature, parce que la nature, elle a du bon sens. Donc, nous, c'est de revenir à ce bon sens-là.
Et peut-être en quelques mots, vraiment rapidement, il est aussi important en tant que consommateur d'être attentif à l'origine du miel que l'on achète dans le commerce.
Ah ben ça, c'est vraiment, merci de me poser ces questions, parce que le miel, c'est un produit naturel. Le miel, faut en consommer 15 grammes par jour, ça fait du bien. Et en fait, le miel qui est produit en France, la plupart des apiculteurs, enfin, je donne la garantie que les apiculteurs mayennais professionnels, que je les connais bien, font du miel naturel. Et la difficulté actuellement, c'est qu'ils ont du stock, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Parce que tout simplement, c'est que les normes européennes font qu'on a du miel qui, lorsque vous voyez sur l'étiquette miel de toute provenance pays européen, des fois, ce miel européen qui vient notamment de pays dont je tairai le nom ici, font que c'est la porte d'entrée du miel qui vient d'Asie, notamment de Chine. Et le miel de Chine, quelquefois, il n'y a que 1% de miel dedans. Et le reste, c'est du sucre. Et qu'on mélange avec du miel, ce qui fait qu'on arrive à des produits, à avoir du miel qui va coûter 3 ou 4 euros le kilo. Mais vous achetez du miel qui n'est pas du miel. Et que le miel d'un apiculteur mayennais, il a un prix de revient. Et qu'un prix de revient actuellement, c'est 15 euros le kilo de miel. Et donc, quand vous trouvez du miel en hypermarché à 5 euros le kilo, faut se dire que ce n'est pas forcément du bon miel. Vous savez, vous avez un produit qui coule comme du Nutella un petit peu, là, d'accord ? Oui. Qui s'appelle une de miel, qui vaut 5 euros le kilo.
Il faut s'interroger sur la qualité et donc acheter avec...
Acheter local. Parce que... vous avez plein de bons apiculteurs en Mayenne qui font du bon miel et notamment des professionnels qui vont faire du miel qui vont également de la transhumance, ils vont faire du miel d'acacia, du miel de lavande, etc., qui est un très bon miel. Découvrez ce miel de la Mayenne.
Et donc, acheter local, c'est aussi penser à la préservation des abeilles. Peut-être qu'on peut revenir sur votre association, Michel, donc l'association Abeilles Mayennaises, et revenir un petit peu sur ce que vous proposez sur notre territoire et sur les différents temps qui vont arriver prochainement.
Oui, donc l'abeille mayennaise, comme vous l'aviez dit, a été créée en 2008. La 2008, justement, pour faire de l'apiculture familiale et de loisirs. Donc, effectivement, on s'adresse à toutes sortes de familles. Et en même temps, donc, on a deux activités principales. La première activité, c'est de faire découvrir l'apiculture et la pratique de l'apiculture comme vous, si vous souhaitez un jour avoir quelques ruches chez vous. C'est de, donc à la fois d'attirer l'attention sur le fait qu'on a affaire à du vivant. Et que lorsque on va prendre ses premières ruches, c'est comme lorsque vous allez prendre un animal à SPA, il va falloir en prendre soin, et tout au long de sa vie. Parce que c'est, quelquefois, il y a des gens qui disent « Ah, yeah, c'est bien, je vais faire quelque chose, un petit geste de bien pour protéger les pollinisateurs, je vais acheter une ruche. » Et sauf qu'une ruche, ça ne s'élève pas comme une poule. Donc, ça a besoin aussi d'avoir un certain nombre de précautions à prendre et de compétences à acquérir. Et donc, on est là pour permettre à ces apiculteurs de les accompagner tout au long de leur vie. Ça, c'est important. Donc, on a des formations, initiation à l'apiculture, qui vont démarrer mi-février. Donc, des formations qui vont se dérouler en 10 séances pendant toute la saison apicole. Donc, formation vraiment pour ceux qui découvrent. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent à nous parce qu'ils ont déjà quelques ruches. Et puis tous les ans, leurs ruches disparaissent, parce que leurs colonies disparaissent, parce qu'ils ont des connaissances à acquérir. Et donc, on a un niveau 1 pour ceux qui débutent, niveau 2 pour ceux qui ont déjà pratiqué un petit peu, mais qui rencontrent des difficultés. Donc, ces formations-là vont démarrer sur nos 4 ruchers-écoles. On a 4 ruchers-écoles en Mayenne. Celui de Laval, qui est au rucher du Potier, sur l'ancien terrain de camping, qui est le siège social de l'association, à Évron, à Mayenne, et donc à Château-Gontier. Donc ça, c'est le principal de nos activités apicoles. Et ensuite, en parallèle de ça, on a mis sur le circuit du rucher du Potier, on a mis sur le rucher du Potier un circuit pédagogique. Ce circuit pédagogique, c'est pour permettre justement aux écoles, donc j'invite tous les enseignants qui veulent venir découvrir l'abeille, on a un circuit pédagogique qui permet en 12 étapes de découvrir l'abeille dans son environnement. Donc on découvre le fonctionnement d'une ruche, donc c'est fait pour les élèves de maternelle, primaire et collège. La visite dure 2 heures, 2 heures et demie. On peut leur mettre à disposition également des mallettes pédagogiques pour qu'ils fassent en amont un travail d'animation dans les écoles pour pouvoir déjà sensibiliser les élèves. Et ensuite, ils viennent au rucher et on a des activités interactives qui sont proposées aux élèves. Donc, c'est des visites qui se font pendant la saison apicole, on va dire pour faire simple, de fin mars à fin juin, début juillet.
Merci Michel. Donc la protection du vivant, ça passe aussi par l'éducation dès le plus jeune âge et donc la protection également de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir pu vous recevoir.
Plaisir partagé.
Et puis d'avoir reçu toutes ces informations sur les abeilles et leur environnement. Merci.
Merci à vous Margot.
Merci Michel. Et oui, voilà, nous sommes arrivés au dernier jour de la semaine. On est vendredi et c'est donc le moment de l'agenda culturel de la semaine. Et pour commencer, j'ai envie de vous parler du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Parce que la chanteuse Mentissa viendra se produire sur la scène Joël Le Teul le mercredi 19 janvier. Vous la connaissez sans doute, elle a été nommée aux Victoires de la Musique 2023. C'est une ancienne finaliste de The Voice et ses chansons dressent en musique un autoportrait sans filet, avec une toute sincérité et une introspection. On a écouté son titre Ebam aujourd'hui dans cette émission. Le concert affiche aujourd'hui complet, mais vous avez beaucoup de chance puisque l'autre radio et l'entracte vous font gagner 2 places. Et oui, c'est votre dernière chance, je vous le disais, vous allez pouvoir la découvrir sur scène. Et pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tentez votre chance, le concours est ouvert jusqu'au 17 janvier. Je rêvais de devenir enseignant et pourtant, l'équipe du Blic Théâtre aborde la vaste notion du service public au Théâtre de Laval le 18 janvier avec la pièce « Amasia ». On y parle de l'éducation nationale et surtout du corps enseignant tiraillé entre le sens du métier et les moyens pour le faire. La compagnie a imaginé 5 figures saisies à un instant de leur quotidien, plongées dans une incertitude profonde liée à leur métier et aux résonances que celui-ci produit dans leur vie. Sur scène, ce sont 5 voix qui se débattent pour décrypter les symptômes et les causes d'une fracture dont elles sont à la fois victimes et responsables. Prisonnières de ce sanctuaire, elles luttent pour maintenir les murs de cette institution vacillante. Ça se passe donc au Théâtre de Laval le 18 janvier avec le soutien du Carré de Château-Gontier. Et justement, le Carré, puisqu'on en parle, vous connaissez très certainement le Comte de Monte-Cristo de Alexandre Dumas. Eh bien, la compagnie La Volige l'a adapté librement sous forme de récit musical, une sorte de lecture moderne et palpitante des aventures d'Edmond Dantès. Sur scène, sous vos yeux, se compose un feuilleton théâtre haletant qui mêle habilement une satire sociale et un élan romanesque. C'est un rendez-vous qui vous permet de nous plonger et de redécouvrir un classique de la littérature sur scène et dans le cadre magnifique qu'est le Théâtre des Ursulines. Et pour terminer, vous en avez eu un avant-goût hier, on a écouté un de ses titres dans notre émission, je vous parle de Flavien Berger. Il est entre l'électro et la chanson française. L'instrument organique est au cœur de son travail artistique. Flavien Berger pose une question. Est-ce qu'un regard peut changer une vie ? Il semblerait que parfois il puisse éclipser le monde. Il se produira au 6 par 4 le jeudi 25 janvier. Et restez bien à l'écoute de l'Agité du local. Il se pourrait bien qu'on le découvre de vive voix la semaine prochaine. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. À 19h, vous écouterez Dance Hall Social Club pour un temps musical qui nous replonge dans des sucreries du passé. Mais si vous êtes plutôt rock, eh bien c'est peut-être de ça dont on a tous besoin en fin de semaine. Les rendez-vous à bien noter, c'est ce week-end, parce que samedi à partir de 13h, on écoute Rock Dreams, suivi de Rock à la Casbah. Dimanche à 11h, l'équipe de sport épique arrive sur les ondes d'une matinée sportive ponctuée de bonne humeur, comme à leur habitude. Dimanche, c'est également le jour de la diffusion de notre émission spéciale Pensée locale. Cette émission a été enregistrée lors du temps fort journalisme à Château-Gontier, un temps fort organisé en partenariat avec les radios associatives des Pays de la Loire. On y parle accès aux soins et lutte contre les déserts médicaux, une question particulièrement sensible et actuelle en Mayenne. Vous pourrez l'écouter à 19h. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de l'autre radio. On se retrouve dès lundi pour un nouvel Agité du local. Prenez soin de vous et puis vous le savez bien, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini.